Là, qui en sont arrivés à un différent. Dans nos vies, on en a déjà vécu. Peut-être qu'on en vit présentement des querelles, des chicanes, des différends. Et comment ça se fait qu'on en vit? On en a, que ce soit sur le plan conjugal, sur le plan familial, au sein d'une même famille, hein, avec les à l'intérieur même des enfants, avec les enfants puis les parents, vice-versa. Au travail, des conflits au travail, des conflits, des querelles, même dans l'Église entre frères et sœurs, des conflits, il y en a partout. On va en vivre, on en vit peut-être, et on va en vivre aussi. Ce matin, on continue l'exhortation que Dieu nous adresse par la bouche de Jacques. Je vous invite à tourner avec moi dans Jacques 4. Le thème de Jacques, à mon avis, revient souvent sur la foi authentique. Un enfant de Dieu qui dit avoir la foi, il vit ça comment dans sa journée de tous les jours? Hein, lundi matin, là, après l'Église, il vit ça comment, sa foi? Avec Jacques, il s'attaque maintenant, là, on arrive dans Jacques chapitre 4. Il va s'attaquer maintenant à différents changements de comportement que le croyant doit avoir dans sa vie. Pour exprimer sa foi d'une façon authentique, il y a des comportements qui nous collent à la peau, qu'on doit changer pour avoir le comportement de ce que Dieu s'attend d'un enfant de Dieu, de son enfant. Et ce matin, ce qu'on voit, c'est que Dieu veut qu'on change la haine en humilité. Changer la haine en humilité. Et on va voir justement à travers les 6 premiers versets, ce premier changement-là qu'on doit opérer dans notre caractère, que Dieu veut opérer dans nos vies, et que ce changement-là, pour qu'il soit efficace, on doit se rappeler 3 choses. La cause, les conséquences et la solution au conflit. C'est ce que Jacques va nous dire, c'est ce que Dieu va nous dire ce matin, à travers les conflits qui peuvent y exister dans nos propres vies. J'aimerais qu'on prie avant qu'on lise les Écritures, qu'on place nos cœurs devant lui et que Dieu vienne sonder nos cœurs à nous, qu'on soit sensible à son esprit avec ce qu'il a à nous dire. Alors, prions. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Tu nous as tellement donné, tu nous as donné ton propre Fils pour qu'on puisse avoir la vie, pour qu'on puisse avoir la victoire sur nos péchés, pour qu'on puisse marcher en nouveauté de vie, pour qu'on puisse être des nouvelles créatures. Et Seigneur, ce matin, on veut ouvrir nos cœurs, nos esprits à ta parole pour être enseignés de toi. Qu'est-ce que tu veux que l'on change dans notre comportement? Qu'est-ce que tu as à nous enseigner sur les querelles, sur les conflits, sur les différends que l'on peut avoir dans nos propres vies? Viens nous aider, Seigneur, on a besoin de toi. Et dans le nom de ton Fils, qu'on te prie. Amen. J'ai apporté l'illustration, c'est plus que des mitaines. Hein, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sûrement. Là, j'ai collé de quoi dessus, vous allez voir bientôt c'est quoi. Mais c'est vraiment le symbole de nos conflits. Hein? Le symbole de nos querelles ou de nos différends. Quand on a des différends, quand on a des querelles, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Hein, on est prêt à mettre les gants. Mais contrairement au hockey, on les jette, là. Mais là, à la boxe, on les met, les gants. Et là, on est prêt à se battre. Hein, pour faire valoir nos conflits, puis nos difficultés, puis nos querelles, puis pour faire valoir notre intérêt à nous. Ce que Dieu va nous enseigner dans cette première partie-là, c'est la cause des conflits. Là où ils prennent naissance. Regardez avec moi les 2 premiers versets. Commençons avec les 2 premiers versets. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Verset 3, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu nous demande de changer notre haine en humilité parce que la cause des conflits, elle est où? C'est mon prochain, c'est sûr, hein? C'est pas moi. Mais en fait, c'est qui les a, les gants de boxe? Vous allez dire, c'est moi. Mais chacun d'entre nous, on les a, ces gants. À travers les trois versets qu'on vient de lire, hein, il y a le mot « passion ». D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Ça vient des passions qui luttent dans nos membres. Il parle aussi de convoitise. Les convoitises que l'on a dans nos propres vies. Et j'ai résumé l'autre, qu'on va les élaborer, les trois. Ces trois causes-là qui sont dans nos propres mains, dans nos propres membres, des mauvais désirs. Et là, quand on a ces querelles-là, ben comme je dis, c'est nous autres qui les avons, ces gants de boxe-là. Est-ce que, à la fin, on va voir, on va se poser différentes questions. Est-ce que ça veut dire qu'on doit toujours agir comme si on était, comme si on avait tort, comme si on n'avait pas raison? On va voir à la fin quelques applications dans la conclusion. Mais commençons par nous examiner nous-mêmes, par examiner notre propre cœur avec ce que Dieu veut révéler dans nos propres vies. Je vais enlever ça pour l'instant parce que je vais avoir de la misère à tourner les pages. Ça commence par nos passions. Le mot dans les Écritures qui tourne, le mot passion qui revient dans les Écritures est pas nécessairement positif, et plutôt même négatif, qui représente la satisfaction des désirs très égoïstes, très personnels, très charnels, qui sont dans nos propres membres. Le Nouveau Testament est assez négatif en ce qui concerne le mot passion. C'est un désir personnel non maîtrisé qui cherche à assouvir chaque passion ou envie qui promettent quelques satisfactions ou quelques plaisirs. Tournez juste un petit peu plus loin, juste pour voir une autre définition que les Écritures disent dans 2 Pierre. 2 Pierre va nous parler d'hommes ou de personnes qui ont, on pourrait dire, qui ont côtoyé la foi, qui se sont attachés en quelque sorte à la foi sans nécessairement connaître Dieu. Puis ces gens-là ont des passions, ont des envies dans leur propre chair. Et ils encouragent les autres à les assouvir aussi. Regardez 2 Pierre 2, on va juste lire les versets 18 et 19. Ces gens-là, avec des discussions enflées de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, on va revenir tantôt sur le mot convoitise, par des dérèglements, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Ces gens-là amènent à dire, hey, ce que tu désires dans le fond de toi, là, c'est bon, c'est correct. Si tu en as le désir, là, fais-le sortir, c'est correct. Et puis ils promettent la liberté en disant, ça c'est l'émancipation de ta personne. Hein? Si tu fais valoir tes propres passions, mais c'est exactement pour ces péchés-là que Jésus est mort, qu'il veut enlever dans nos vies, qu'il veut qu'on enlève. Et ces passions-là qui luttent dans nos membres, dans nos ces luttes-là, ces querelles-là, ben nous amènent à considérer le fait que ça, c'est une des causes des conflits, des luttes, des querelles que je vis. De ces passions-là que je voudrais laisser sortir, de mes désirs charnels que je voudrais laisser paraître. Et est-ce que ça donne la liberté? Jacques, il dit, ils sont eux-mêmes esclaves de ces passions-là. Se laisser sortir cette passion-là amène beaucoup plus l'esclavage que la liberté. Je vous ai fait tourner dans 2 Pierre, reculer dans 1 Thessaloniciens. Je ne ferai pas circuler beaucoup ce matin, mais un peu au début. 1 Thessaloniciens 4. C'est quoi la volonté de Dieu pour nos vies? Le péché qui nous colle à la peau, le péché qui nous enveloppe si facilement, que Hébreux nous dit, qu'on doit se débarrasser continuellement, rapidement, pour pas qu'il nous enveloppe. Mais ces passions-là qui nous emmènent à avoir ces querelles-là sont des causes de nos conflits. Mes propres passions à moi, ce que moi-même j'ai dans mon cœur. Et là, dans 1 Thessaloniciens 4, regardez versets 3 à 5, ce que Dieu veut. Des fois, on veut connaître la volonté de Dieu, hein? On va la connaître dans une partie. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. sans vous livrer à une convoitise, encore ce mot-là qu'on va revenir, une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La volonté de Dieu, c'est pas qu'on se livre à ces passions-là, mais c'est plutôt qu'on pratique, qu'on soit sanctifié, que nos passions, on les confesse à Dieu, puis qu'on sache posséder, il dit, notre corps, qu'on s'abstienne de la débauche, qu'on sache posséder son corps dans la sainteté, dans l'honnêteté, et de ne pas se livrer à des convoitises passionnées. C'est ça la volonté de Dieu, et c'est ça qui donne la liberté, contrairement à ce qu'on voyait dans Pierre, de ces gens-là qui disent, laisse-toi aller à tes passions. Si on continue d'avancer, revenez dans Jacques, il dit à la fin du verset 1, il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Voilà la première cause de conflit, ces passions-là qui sont dans nos membres. Et il va dire aussi au verset 2, vous convoitez et vous ne possédez pas. Dans le fond, c'est quoi la convoitise? C'est de vouloir quelque chose que j'aurai jamais. De désirer quelque chose dans mon cœur qui n'est pas à moi et qui fort probablement ne sera jamais à moi. Jésus disait, vous convoitez la femme de votre prochain. C'est-tu mal ça? C'est-tu péché? Celui qui convoite la femme de son prochain? Mais il dit, celui qui convoite en pensée, a commis l'adultère. Les convoitises sont du péché dans nos membres qui nous font, qui est la cause de nos disputes. Ce que je désire, ce que je veux de l'autre. On pourrait citer David et Bathsheba, hein, qui a convoité la femme de son prochain, mais la convoitise qui a commencé dans son cœur l'a amené à faire des actions et même jusqu'à faire quoi? À tuer. Ça a commencé par des pensées. La convoitise, c'est quelque chose qui est dans nos cœurs, dans nos pensées. Et lui, il ne s'est pas querellé longtemps avec Uri, hein, le mari de Bathsheba. Il l'a tué. Il l'a éliminé tout de suite. Mais c'est ça que ça fait. Ces conflits-là, la cause est dans nos passions, dans nos convoitises. Vouloir les biens, la fortune, même la femme, le travail, vouloir tout ce que mon prochain a, Dieu me dit, tu ne le posséderas pas. Regardez verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous voulez des choses dans vos cœurs qui est alimentées par des désirs. Vous les aurez pas. Vous possédez pas. On pourrait parler aussi, j'allais dire tantôt, la convoitise, c'est du péché. C'est ce qu'on désire dans nos cœurs, un désir qui certainement n'est pas la volonté de Dieu, comme on parlait de la femme de mon prochain, mais il peut y en avoir plein d'autres convoitises. Hein? Désirer, comme je disais tantôt, un poste, le travail, la fortune, les biens de mon prochain. C'est toute la convoitise. La tentation n'est pas un péché. Est-ce que je peux être tenté? Mais oui, je peux être tenté. Mais qu'est-ce que je fais quand vient la tentation? Est-ce que je la fuis? Est-ce que je la confie à Dieu? Est-ce que j'utilise le moyen que Dieu me donne quand vient la tentation pour en sortir? C'est ça que Dieu veut, parce que la tentation n'est pas un péché, mais elle conduit, par exemple, à la convoitise et au mauvais désir. Et regardez le verset, on continue le verset 2, où vous êtes meurtriers et envieux. Là, Jacques, tu pousses le bouchon un petit peu loin. Hein? Meurtrier. Ceux qui sont meurtriers, levez la main. On n'en aura pas beaucoup, hein, parce qu'ils sont tous en prison, les meurtriers. Du moins, ceux qui sont attrapés. Mais dans le fond, Jacques est en train de dire, vous êtes meurtriers. Et Jacques, il est dur un petit peu. Hein? Mais dans le fond, nos cœurs peuvent ressembler à ça. La cause de nos conflits, c'est nos passions, nos convoitises, nos désirs incontrôlés. Meurtrier, ça voulait dire quoi? Tournez juste encore un petit peu plus loin. 1 Jean. 1 Jean 3. À un moment donné, il y avait deux frères. Vous connaissez cette histoire-là. Il y a un frère qui était jaloux de son autre frère. Parce qu'il semblait avoir la faveur de Dieu. Et lui, il ne l'avait pas. Et puis, à un moment donné, cet homme-là s'est retrouvé tout seul dans sa chambre. et puis il était vraiment renfrogné avec lui-même. Tu sais, il avait le regard ferme, baissé, la tête baissée, les sourcils froncés, et puis il commençait à méditer la vengeance, la souffrance, ce que lui aurait aimé puis qu'il n'a pas eu. Et là, Dieu est intervenu puis il a dit, tu sais, si tu lèves ton visage puis tu agis bien, mais tu vas gagner cette victoire-là. Mais si tu laisses le péché se coucher à ta porte, il va venir t'envahir si tu le laisses là. Et cet homme-là n'a pas écouté le conseil de Dieu. Puis il est allé dans son champ, hein, parce qu'il était laboureur, puis commençait à labourer ses légumes, puis ses fruits, ou probablement ses légumes. Et là, il a commencé à méditer, puis il a fait venir son frère. « Hey Abel, viens voir, j'ai quelque chose à te montrer. J'ai une bonne récolte cette année. » Pendant qu'Abel est en train de regarder ce que Caïn est en train de faire pousser, mais Caïn a éliminé son frère. Il l'a tué. Parce qu'il a laissé ses mauvais désirs, ses passions, sa convoitise dans son cœur, sa frustration pousser. Et la querelle ne s'est pas nécessairement beaucoup transformée en mots. Du moins, ce n'est pas ce qu'on voit dans. C'est pas ce qui nous est révélé dans les Écritures. Mais la querelle a poussé dans son cœur au point où ce qu'il a carrément tué. Et Jean, il nous dit, 1 Jean 3, verset 10, « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu. La foi authentique, c'est quoi chez un enfant de Dieu? Et on reconnaît aussi les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Regardez le verset 15. « Quiconque est son frère est un meurtrier. » Cette attitude dans le cœur destructrice. C'est ça le meurtre dans un sens que Dieu est en train d'élaborer ici. C'est pas seulement d'enlever la vie physique de mon frère ou de ma sœur, là, mais c'est d'avoir cette attitude où la cause de mes querelles, de mes conflits est dans mon propre cœur, dans mes propres passions, dans ma propre convoitise que je désire, dans mes propres désirs, mes propres œuvres personnelles que je vais avoir. Et Jacques, il dit, vous êtes meurtrier. Et c'est pas vraiment pas des meurtriers, comme nous, on n'est pas des meurtriers. Et comme chacun de croyants, on ne veut pas entretenir quelques querelles, quelques chicanes, quelques conflits. Un enfant de Dieu veut résoudre ces conflits. Il veut mettre en pratique l'amour que Dieu a eu pour lui et le communiquer envers son frère et ne tolérera pas de pratiquer ou d'entretenir cette querelle-là, cette chicane-là. C'est ça la foi authentique chez un enfant de Dieu. Jésus disait dans le jardin de Gethsémané avant d'être livré, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il disait ça à Dieu et à son Père. Et trop souvent, la cause de nos conflits qui est dans notre propre cœur, revenez dans Jacques, il dit, verset 3, « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. » Jésus, quand il a prié son Père, il n'a dit pas « ma volonté », mais « ta volonté ». C'est l'attitude que le croyant doit avoir aussi, même dans ses prières, dans sa marche, dans sa relation avec Dieu. Mais trop souvent, on ne le dira pas comme ça, mais ça pourrait ressembler à ça. Non pas « ta volonté, Dieu, mais la mienne ». Il me semble que ma volonté, elle semble bonne. Ta volonté, elle semble dure des fois. Dieu est en train de nous dire, vous demandez, puis vous ne recevez pas. Sondons nos cœurs pour savoir quel est le motif qu'il y a derrière. Même à travers les chicanes, à travers les passions, pas les passions, mais les luttes, les querelles, Dieu est en train de me dire, tu fais des prières, puis sonde ton cœur pour savoir c'est pour satisfaire quoi. C'est-tu pour satisfaire ma gloire? C'est-tu pour satisfaire ma volonté? C'est-tu pour satisfaire l'attitude du croyant que je veux que tu aies, ou c'est pour satisfaire ta personne, tes motifs, tes passions? Je dois sonder mon cœur. Première des choses, Dieu me dit, David, la cause de tes conflits, c'est ce que tentent les mains. C'est ton propre cœur. tes passions, tes convoitises, tes désirs. Et je dois sonder mon cœur. Puis Dieu va nous enseigner sur ce que c'est les conséquences de ces conflits-là, de ces luttes-là. Pour vous montrer les conséquences, j'aurais besoin d'un volontaire. Pour montrer les conséquences de coups, Frédéric. Non, c'est pas vrai. On va donner des coups pour voir c'est quoi les conséquences, des coups qu'on peut porter à notre prochain. Il y en a des conséquences. Et puis, on devient habile aussi, hein? On est capable de faire des enchaînements pas pires, hein? Des bons crochets de désir. Tiens-toi, des uppercuts de passion ou de convoitise. On est bon pour avoir ces luttes-là qui sont dans nos propres membres pour qu'on puisse en venir à notre propre fin, à nos propres désirs ou à notre propre façon qu'on peut voir les choses. Et Dieu m'enseigne que les coups que je peux porter avec ces conséquences-là qui sont en moi ont des conséquences. Puis la première conséquence, je l'ai appelée la conséquence du que dalle. Hein? Que dalle, ça veut dire rien. Ça veut dire rien. Puis pas rien, là, rien. Hein? On va juste relire rapidement, là. Verset 2, « Vous convoitez et vous possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous possédez pas. Vous demandez puis vous recevez pas. Que dalle! » Hein, c'est quoi quand on fait des luttes, là, quand on est en querelle et en conflit, dans le fond, c'est quoi notre motivation intérieure? C'est de faire valoir nos points, c'est de montrer qu'on a raison, puis c'est de montrer que moi, là, j'ai des passions là que je veux donner, là, que je veux pouvoir résoudre dans ma vie. Et puis là, on va porter nos coups, puis on pense qu'on est en train de faire valoir nos points, puis qu'on va obtenir, qu'on va recevoir, que ça va donner de quoi? Puis Dieu m'enseigne rien. Ça, je reçois rien. Je possède rien quand que je laisse ces causes-là pousser dans ma vie, émerger dans ma vie. La conséquence du que dalle, c'est pas exactement le contraire de ce pourquoi on pourrait se battre. Mais oui, c'est exactement le contraire. Dans le but d'obtenir, de posséder ou de recevoir, Dieu essaye d'éveiller notre intelligence, notre sagesse. Pas notre intelligence dans le sens que on va comprendre que quand on se bat comme ça, quand on a ces querelles-là, que ce soit conjugaux, familiaux, que ce soit au travail, entre frères et sœurs, avec mon prochain, et quand que je me bats pour mes propres intérêts, j'obtiens pas grand-chose. Souvenez-vous, la dernière fois qu'on a vu dans Jacques, on parlait de deux modes de vie différents. Deux sagesses, la sagesse d'en haut et la sagesse d'en bas. Mais on est en train de continuer le fait que se défendre pour ses propres intérêts, c'est la sagesse d'en bas. On pense faire des belles combinaisons de conflits dans lesquels on va se battre, puis on oublie que la sagesse d'en haut nous enseigne qu'on n'obtient rien. Que j'ai à regarder les fruits qui sont en train de pousser à tous mes pieds, que j'ai semés pendant des années, et je devrais les évaluer pour voir, c'est-tu des fruits que Dieu voulait que je récolte? Où je suis en train de récolter des fruits que finalement, des choses que j'ai semées, que je ne devrais pas récolter parce que Dieu ne voulait pas que je les sème. Une autre conséquence, regardez, on va finir le verset, on va continuer le verset plutôt au verset 4. Adultère que vous êtes. Arrêtons là pour l'instant. Jacques, il pousse le bouchon encore, hein? Adultère. Il n'est évidemment pas en train d'employer le terme au sens littéral en disant que vous avez un problème de moralité sexuelle, mais plutôt un problème dans ma fidélité à Dieu. Quelqu'un qui a de la joie, on dit qu'il est joyeux. Quelqu'un qui pratique la miséricorde, on dit qu'il est miséricordieux. Quelqu'un qui est gracieux, c'est parce qu'il y a de la grâce. Vous comprenez le sens? Mais quelqu'un qui a de la foi, c'est un foyeux. C'est un fidèle. Littéralement, c'est ça. On n'a pas traduit foyeux parce que ça n'existe pas dans notre dictionnaire. Mais dans notre dictionnaire, la foi, c'est la fidélité. La foi ou la confiance et la fidélité, les deux vont ensemble. Si j'ai une confiance réciproque dans mon couple, il va y avoir aussi une fidélité qui va être exprimée. Si j'ai une foi envers Dieu, une confiance que je marche avec Dieu et ce que Dieu va me prodiguer comme conseil, c'est bon, puis je vais l'écouter, puis je vais placer ma foi en ça, mais je vais être fidèle. C'est exactement ça que Jacques il nous enseigne depuis le début. Vous avez la foi, comment la manifestez-vous? Comment est-ce que je la manifeste? La foi authentique va se manifester comme ce que Dieu s'attend de la recevoir aussi. Et la fidélité devrait en être. Mais adultère, c'est exactement le contraire de la fidélité. Vous êtes adultère. Pourquoi? Parce que Dieu est avec vous. Dieu est même en vous. Dieu, il vous conduit. Dieu vous enseigne. Il vous donne ses préceptes. Puis vous ne les écoutez pas. Vous avez cette cause-là à l'intérieur de vos conflits, ces passions, ces convoitises et ces mauvais désirs, et vous vous y livrez. Ce n'est pas en conformité avec la fidélité que Dieu veut que j'aille. Il y a la conséquence qu'on n'obtient rien. La conséquence sur ma fidélité aussi avec Dieu. Je vais avoir une marche avec Dieu où je vais exprimer une fidélité avec lui. Une persévérance, une obéissance. Et quand je réalise que dans le fond, mon prochain, peu importe quel qu'il soit, quand que finalement j'entretiens un conflit, une querelle ou quoi que ce soit avec lui, je suis en train de manifester un comportement contraire de ce que Dieu veut que j'aie. Il y a la conséquence directe dans ma relation avec Dieu. On finit le verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Les termes sont encore assez forts, hein? Inimitié contre Dieu. Ennemi de Dieu. Adultère. On est dans une section de l'épître de Jacques, là, où il y a deux petits mots qui ne reviennent plus. Mes frères. Hein, le ton un peu, pas parce que c'est plus des frères, mais parce que le ton est devenu un peu plus sévère. Et effectivement, Dieu manifeste une certaine exigence ou une certaine importance à la relation que j'ai avec mon prochain. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Le monde, Dieu l'a aimé, le monde. Il a donné son Fils unique pour le monde. Mais le monde n'est pas seulement l'univers ou la terre où les gens vont vivre, dans lequel Dieu est venu. Mais le monde, c'est aussi le domaine à Satan. Là où le péché est encouragé, valorisé, où il est motivé. Et Dieu qui a tant aimé le monde a envoyé son Fils pour venir sauver le monde. Mais qu'est-ce que le monde a fait avec son Fils? Quand la lumière est venue, mais le monde l'a rejeté. Ce monde-là qui est le domaine, si je peux dire, ou la sphère qui appartient à Satan, où le péché est encouragé. Tournez avec moi dans Jean, 1 Jean, encore une fois, juste un petit peu plus loin. 1 Jean 2. Aimer le monde, ça veut dire quoi? Dieu est en train de me dire que les conséquences des conflits affectent directement ma relation avec Dieu. Quand que je me livre évidemment au conflit puis que je tiens absolument à me battre pour mes intérêts personnels. Et la conséquence directe, mais Dieu appelle ça, c'est l'amour du monde. L'amour du monde, ça veut dire quoi pour moi l'amour du monde? 1 Jean 2, 15 à 17, Jean il nous dit, « N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. » Et là, on peut nuancer ce que je viens de dire, hein? Jésus a aimé le monde. On doit aimer les gens autour de nous. On doit les aimer et les conduire, évidemment, à ce que Dieu veut leur communiquer. Mais l'idée d'aimer le monde, vous allez voir qu'est-ce que Jean va dire. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, ça, c'est dans mes propres membres. dans ma propre vie, la convoitise, la chair des choses que je peux désirer, où je ne pratique plus ce que Dieu veut, qui est ma sanctification, qui que je m'abstienne de la débauche et puis que je sache posséder mon corps. Mais la convoitise de la chair, c'est dans le monde. La convoitise des yeux, tout ce que le monde veut t'offrir. Regarde, c'est bon, c'est beau pour toi. Et vous vous souvenez, ça veut dire quoi, convoitise? Les choses que je désire puis que j'obtiendrai pas. Un désir qui est certainement à l'opposé du désir de Dieu. La convoitise des yeux et puis l'orgueil de la vie. Hein? Chacun d'entre nous, on va être grand, on va être respecté, on va être honoré, puis on est prêt à mettre notre poing sur la table puis notre pied à terre pour qu'on puisse faire valoir notre orgueil de la vie. Mais ça, tout cela est dans l'amour du monde. Et ça ne vient pas du Père, mais ça vient du monde. Et le monde passe, et ça convoitise aussi, mais celui qui a fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde encourage mon propre nombril. Puis habituellement, on aime ça. Hein, nos propres intérêts. Revenez dans Jacques. Jacques est en train de dire que les conséquences à ça, quand on se livre à quelques conflits, quelques querelles, mais il y a la conséquence du que dalle, qu'on n'obtient rien, la conséquence sur ma fidélité aussi avec lui, et ma conséquence directe sur ma relation avec Dieu, où je veux marcher avec lui en ami et pas en ennemi, où je veux avoir cette relation-là avec Dieu. Est-ce que je peux entretenir une relation d'amitié avec Dieu et puis une relation d'ennemi sur la terre avec quelqu'un? Bien, pour Dieu, ça ne marche pas. Parce que la marque du maître sur le disciple, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'amour de mon prochain. Souvenez-vous ce que Jésus disait avec nos ennemis? Aimez-les. Et c'est difficile. Mais il nous demandait quand même de les aimer. L'amour du monde n'est pas un style de vie que Dieu tolère. Il s'agit d'une guerre déclarée contre lui. Le monde est en guerre contre Dieu. Puis Jacques affirme avec simplicité que c'est l'inimitié contre Dieu. J'ai une phrase, là, je vais essayer de la lire toute d'un bout, puis elle est assez longue, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à pas pire dedans. Il choisit avec soin un tel langage fort et sans compromis afin de renverser toute tentative dans notre esprit à justifier les compromis que nous faisons avec le monde comme n'étant pas vraiment une infraction sérieuse de la volonté révélée du Seigneur. Jacques, il veut être clair. Il n'y a pas place au compromis. Il est plus clair que moi. Hein? Jacques, il veut que ça soit clair dans notre esprit. Où les termes, ils sont forts, mais que Dieu veut qu'on pratique cette marque chez le croyant, que Dieu veut qu'on pratique cet amour-là pour notre prochain. Les conséquences, pas les conséquences, mais les causes de nos conflits, souvent on les a entre les mains. Nos passions, nos convoitises, nos désirs. Et ça apporte, ces conflits-là ou ces luttes-là vont apporter des conséquences. Non seulement sur mon prochain, mais ce qu'on vient de lire, c'est sur moi premièrement. Sur moi premièrement. J'obtiens rien. Je pratique pas la fidélité comme ce que Dieu voudrait que j'exprime ma foi. Et ma relation avec Dieu est affectée directement par la mauvaise relation que je peux avoir avec mon prochain. Les conséquences sont premièrement sur ma propre vie. Puis il y a dans les conflits, quel que soit le conflit, il y a des solutions. On pourrait en parler longuement. On va regarder ensemble le verset 5 particulièrement. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a fait habiter en vous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » On va arrêter là pour l'instant. C'est quoi la solution à nos chicanes, à nos conflits? Est-ce que le vieux sage, est-ce qu'il avait la bonne réponse? Hein? De tout le temps dire, t'as raison, t'as absolument raison. Je pense pas que c'est ça la solution. n'est pas la solution que Dieu nous dit aussi. Dieu est en train de nous dire qu'il nous chérit, qu'il chérit l'esprit qu'il a mis en nous, que Dieu nous aime, qu'il désire que ces conséquences-là qui se retournent contre nous, que nous ne les ayons pas, que si on vit une vie, et le mot que Jacques emploie, adultère face à Dieu, Dieu, il est jaloux. Une bonne jalousie. Est-ce que Christ veut partager son épouse avec le monde? Absolument pas. Est-ce que Dieu veut partager son enfant avec Satan? Absolument pas. Et Dieu t'aime, Dieu te chérit, et je peux même employer le mot qui est là, il te jalouse, dans le sens qu'il veut te garder si tu es son enfant. On est ses enfants. Et la preuve qui va amener ce désir-là que Dieu a de nous garder et de nous conserver, c'est l'Esprit qu'il a placé en nous. Les Écritures nous disent que l'Esprit est le sceau que Dieu place dans nos vies quand on devient ses enfants, qui nous garde jusqu'au jour de la rédemption. Si tu es un enfant de Dieu et que tu as reçu son Esprit, il n'y a rien qui peut enlever ce sceau-là. Il n'y a rien qui peut te séparer de l'amour de Dieu. Il n'y a rien qui peut faire en sorte que tu ne sois plus son enfant. Et si tu es son enfant et qu'il y a un aspect dans ta vie, justement, qui n'est pas réglé avec ton prochain, Dieu, il veut que, premièrement, tu reviennes à lui. Et cet esprit-là qui est en moi, qui est le gage de mon héritage, qui est aussi le sceau, qui est les arts de tout ce que Dieu a placé sur moi, en moi, pour me conserver et puis pour prouver mon identité à lui et sa possession, bien, Dieu le chérit. Et cet esprit-là, comme j'allais dire, qui est en moi, Dieu veut qu'on le suive. Dieu veut qu'on marche par l'esprit. Y a-t-il une différence entre marcher par la chair et marcher par l'esprit? Notre tendance humaine, très naturelle, c'est de marcher selon nos passions, nos désirs, nos convoitises, marcher selon la chair. Puis l'esprit qui est en moi, que Dieu chérit, cette possessivité-là que Dieu a envers ses enfants, son Église, son épouse, bien, il veut que je la vive, que je marche selon son esprit. La solution, c'est de me rendre dépendant de son esprit, de marcher selon son esprit, de me rappeler c'est quoi que son esprit désire pour ma propre vie. Choisir l'humilité plutôt que l'orgueil. Le verset 6, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil de la vie, le fait que je veux défendre mes propres intérêts, mes propres points, mes propres arguments, puis que je deviens très orgueilleux, comment est-ce que Dieu agit face aux orgueilleux? Il résiste et on n'obtient rien. Si vous avez déjà regardé des parties de football, l'offensive protège le ballon, hein? Et il y a une ligne offensive et généralement, c'est des gros monsieur. Et le but de ces hommes-là qui forment la ligne offensive, c'est de résister à la défensive qui, elle, veut percer la ligne. Et généralement, ces hommes-là sont assez forts, assez puissants pour résister. Imaginez Dieu maintenant qui résiste aux orgueilleux. Qui peut, quel orgueilleux soit-il, peut percer la ligne offensée ou la ligne que Dieu protège à laquelle il résiste contre les orgueilleux? Personne. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'humilité est la solution. L'humilité, cette attitude que Dieu veut que j'aie, l'humilité, c'était pas les sentiments que Jésus avait, ça? L'humilité? Philippiens 2, rechercher les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a pas regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais qui plutôt il s'est rendu en quittant son trône de gloire, il s'est rendu sur la terre, prenant la forme d'un homme, se rendant même serviteur des hommes, et même jusqu'à la mort de la croix. C'est de l'humilité, ça. Et qu'est-ce que Dieu a fait avec l'humilité de Jésus? C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, tout au-dessus de par-dessus. Je suis en train de le citer vraiment dans mes propres mots, là, mais qui lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, et que tout genou va fléchir devant lui, toute langue va confesser qu'il est à la gloire de Dieu le Père. Avec l'humilité, Dieu donne une grâce encore plus excellente. Si on agit avec orgueil, Dieu résiste contre les orgueilleux. Si on agit avec humilité, puis on se place devant Dieu, « Dieu, j'ai tel conflit au travail, j'ai de la difficulté, Dieu, dans ma relation peut-être conjugale, ça arrive dans ma relation familiale. » Et d'avoir cette attitude d'humilité envers mon prochain, puis demander l'intervention de Dieu. Et Dieu va toujours agir avec amour. Et Dieu va nous faire agir avec amour et respect aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas possible de faire valoir ses droits? Ce que nous croyons, ce qu'on pense, ça veut-tu dire qu'il faut s'écraser sans rien dire à chaque fois? Ça veut-tu dire qu'il faut agir comme si nous avions toujours tort? Non, c'est pas ça. La réponse de nos droits, de nos arguments doit se faire avec respect et douceur, avec le caractère que Dieu veut que j'aie dans les circonstances. Peut-être que j'ai eu un conflit, que j'ai à m'évaluer mon propre cœur. Mais Dieu veut que je réagisse avec respect et douceur. Quand j'ai un conflit avec mon épouse, avec mon mari, je réagis comment? Par la domination? En le tassant? Avec dureté? Ou est-ce que je fais comme ce que Dieu me demande, d'user de sagesse dans mes rapports avec ma femme? Ou avec mon mari pour bien agir? Quand j'ai des conflits avec mes enfants, qu'est-ce que je fais? Ou avec mes parents? Quand j'ai des conflits au travail, ça marche comment? À coup de grief? Ou est-ce que je peux demander à Dieu qu'il intervienne dans ces situations-là? Ou est-ce que je peux demander à Dieu de faire valoir mon droit et d'agir avec humilité? C'est le caractère que Dieu s'attend de ses enfants. Dieu nous demande d'être en paix avec tous, autant que cela dépende de nous. L'attitude du croyant, d'une foi authentique, d'un croyant fidèle, il recherche la paix. C'est un artisan de paix. Vous souvenez-vous que Jacques disait ça à la fin du chapitre 3? Les artisans de paix. Mais un croyant, ça recherche la paix, ça crée la paix et ça la désire. Puis ça se peut qu'à un moment donné, je sois face à un parti qui, lui, la veut pas, la paix. Je peux pas rien faire de plus. Ce que Dieu me demande, c'est d'être en paix avec tous, autant que cela dépende de moi, et d'avoir cette attitude du croyant. Me rappelant, elle est où la cause de mes conflits? Me rappelant la conséquence des conflits qui se retournent beaucoup contre moi, mais en appliquant aussi la solution au conflit. Changer la haine en humilité, et Dieu accorde une grâce beaucoup plus excellente à ses enfants. On arrête là pour ce matin. On aurait pu continuer d'ajouter les versets 7 à 10 qui s'ajoutent, si je peux dire, aux solutions que Dieu nous donne pour vivre cette harmonie-là, premièrement avec lui, mais aussi avec notre prochain. On continuera avec ça la prochaine fois. Je vais terminer par un mot de prière. Seigneur, on vient devant toi pour te louer parce que tu dis la vérité sur nos propres cœurs. Tu nous révèles ce qu'on est. Tu te révèles qui tu es. Tu nous rappelles les conséquences, Seigneur, de nos mauvaises décisions souvent. Mais Dieu, on veut te louer, t'adorer, te rendre grâce pour toutes ces solutions que tu nous apportes. Parce que tu es avec nous quand on pratique ce caractère que tu désires de nous. Tu nous accordes cette grâce de nous élever quand on s'humilie. Et Dieu, rappelle-nous, fais le ménage dans nos propres motivations, dans nos propres cœurs. Et que ce matin, Seigneur, si j'ai un conflit, que tu me rappelles, quelque chose que je dois régler, que ce soit avec ma femme, mon mari, mes enfants, un collègue au travail avec mon prochain Dieu. Je vais m'engager ce matin à pratiquer ce caractère que tu veux que j'aie, à changer ma haine en humilité. C'est difficile, Dieu, j'ai de la misère. Ça me fait du mal souvent. Viens m'aider. Accompagne-moi, s'il te plaît. C'est au nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.